réveillée depuis des heures. La petite est cachée sous sa couette, terrifiée, affirmant avoir senti quelque chose lui toucher la tête. « Maman, je t'attends depuis 5 heures, j'ai eu trop peur. Il y avait quelqu'un dans ma chambre qui m'a touché. » Marie-Claire est sans voix. Puis, confortée par ce qu'elle vient de vivre, elle aimait prudemment l'idée que c'était peut-être son papa. Mais Nolwenn refuse immédiatement. « Non, papa, je veux pas. Ça me fait trop peur. Je veux pas. Moi, j'étais dans une telle joie. Mais je ne voulais rien lui imposer. Alors, je lui ai dit que, comme elle était tellement emmitouflée dans son lit, peut-être était-ce un bout de sa couette qui lui avait frôlé le visage. »
Ça l'a rassuré.
Un peu. Mais pendant les semaines qui ont suivi, elle a eu du mal à s'endormir. Moi, en revanche, au petit déjeuner ce matin-là, j'étais toujours sur mon nuage. D'ailleurs, elle me l'a dit. « Maman, ça va? T'es pas comme d'habitude. » Je suis parti au travail et toute la journée, j'ai été sur mon nuage.
Avant de rentrer chez elle, Marie-Claire, qui n'est pas spécialement croyante, éprouve le besoin de s'arrêter au sanctuaire de Notre-Dame de la Peignière, à l'est de Rennes. Elle veut y allumer un cierge. Ce qu'elle vit est trop beau. Elle veut dire merci. Remercier Guy, le monde entier.
Dans la journée, j'ai essayé d'en parler à une collègue de travail qui m'a écouté avec bienveillance, parce qu'elle m'écoute toujours comme ça. Mais bon, voilà. Elle a souri, l'air de dire « Si ça te fait du bien. » C'était un cadeau tellement fort qu'il fallait que je le partage. Garder une telle chose pour soi, c'est difficile. J'avais l'impression d'avoir un diamant. Et il aurait fallu que je le cache au fond de mon jardin.
Que représente ce diamant pour vous?
Le lien d'amour qui est toujours là. Cette présence.
Marie-Claire réédite à plusieurs reprises sa tentative de parler de cette expérience autour d'elle, mais cela s'avère catastrophique. Elle décide finalement d'y renoncer, lassée, blessée même d'entendre toujours les mêmes remarques. « Tu as vraiment besoin de t'accrocher à quelque chose pour avancer. Tu semblais aller si bien pourtant. » Ou « Laisse Guy partir, seul le temps pourra t'aider. »
Ces remarques la font douter d'elle, lui font craindre d'être en train de plonger dans la dépression.
Marie-Claire est tiraillée, perdue entre la réalité de son ressenti et le discours, en apparence raisonnable, de ceux auxquels elle parle. Coincée entre deux mondes.
Je ne voulais pas qu'on m'enlève cette expérience. Si c'était pure invention de ma part, pourquoi ma fille avait-elle ressenti quelque chose qui l'avait effrayée cette même nuit? Pourquoi est-il si difficile d'intégrer une telle joie dans sa vie?
Intégrer? C'est-à-dire?
Les amis, petit à petit, passent à autre chose.
Mais pas nous.
Tous ces signes qui viennent sur le chemin du deuil, nous, on ne passe pas à autre chose, on est dedans, complètement dedans. Et on ne peut pas le partager, rien exprimer. La nuit où Guy est venu contre moi, j'aurais eu envie de courir chez ma belle-mère pour le lui dire. Mais ce n'était pas possible. Même encore aujourd'hui, c'est impossible.
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Marie-Claire a accepté de témoigner. Pour que le récit de son parcours dans lequel elle estime avoir tant reçu puisse rassurer certaines personnes qui pensent vivre des choses similaires sans être sûres d'elles. Marie-Claire non plus n'a pas toujours été sûre d'elle, loin de là. À force de douter, elle a même craint de perdre la raison. Mais finalement, son lent cheminement, sa ténacité à garder les pieds sur terre pour s'occuper de ses deux enfants, sa curiosité lui ont permis de trouver une certaine sérénité.
Depuis la mort de Guy, j'ai évolué spirituellement, même si le chemin est encore long et semé d'embûches. Je prends conscience que le positif que je cherchais à faire ressortir de cette douloureuse épreuve est probablement cette transformation qui s'opère en moi. Je suis ravi d'avoir emprunté ce nouveau chemin plein de sens qui me donne envie de vivre. Il serait bon de changer notre regard sur la mort dès l'enfance. Et pourquoi pas à l'école? J'essaie avec mes enfants, mais c'est difficile à l'adolescence. La mort reste toujours une étape très dure dans nos vies. Mais peut-être pourrions-nous mieux accompagner dans cette traversée les mourants comme ceux qui restent. Pourquoi est-ce si compliqué de parler de ces histoires un peu étranges? Tant de personnes sont touchées par le drame immense de la perte d'un proche, vivent des expériences qu'elles ne comprennent pas et ne savent pas vers qui se tourner pour ne serait-ce qu'en parler. Il n'est pas rationnel qu'une chape de silence et de crainte injustifiées continue d'entourer ces expériences qui sont pourtant vécues par des millions de personnes. C'est absurde. Cela ferait tellement de bien que cette parole soit simplement entendue et accueillie. La parole de ses parents, de ses conjoints, de ses proches en deuil. Faire disparaître le doute commence par un lent travail intérieur. Il s'agit dans un premier temps de prendre la mesure de l'impact que des siècles d'une éducation matérialiste ont eu sur notre représentation de la réalité. Ce que nous voyons n'est pas le réel. L'image que nous avons du monde est déformée par des filtres culturels. Notre rapport à la réalité ne se base que sur l'analyse mentale, intellectuelle, notre esprit d'analyse. Et notre subjectivité, et la force de nos émotions, et notre intuition.
Chapitre 10. Les interrogations de mon père. Je me souviens de cette discussion avec mon père, des années après la mort de mon frère Thomas, tué dans un accident de voiture en Afghanistan le 12 avril 2001. Je rêve souvent de ton frère, commence-t-il. Mon père se confie rarement. Ce jour-là, pourtant, il m'avoue retrouver souvent Thomas dans ses rêves. Est-ce la fatigue, la tristesse, ou sa mort dans moins d'un an qui éclaire déjà ses nuits de paysages et de rencontres bouleversantes? Comment savoir? Ce matin-là, très ému, il raconte. Dans un rêve récent, Thomas est là. Nous nous embrassons. Je suis très content, mais aussi très étonné. Je lui dis « Mais tu es mort ?»« Non, dit-il, ce n'était qu'une sorte de simulacre. » Thomas, ajoute-t-il en parlant de lui-même, avait besoin d'aller ailleurs, quelque part, et il a fait semblant d'être mort. L'idée ne me vient pas de lui demander comment il s'y est pris vis-à-vis de toi. Pour ? Eh bien, tu as assisté à l'accident. Alors, comment s'y serait-il pris pour faire semblant d'être mort vis-à-vis de toi? Par contre, en le voyant ainsi devant moi, je me pose la question, qui avait-il donc dans son cercueil? Ce n'est pas à Thomas que je le demande, c'est à moi, et je ne trouve aucune réponse. Mais sa présence est tellement tangible dans ce rêve que je trouve du plus haut comique l'idée de voir la tête que vont faire nos amis et nos voisins en tombant nez à nez avec lui. Je pense qu'il faudrait commencer par les avertir en douceur, mais je n'arrive pas à savoir comment m'y prendre. En réalité, Thomas ne fait ici qu'une étape. J'en ai tout à fait conscience et je sais qu'il faut le reconduire à la gare. Où était-il avant d'apparaître devant moi? Il ne le dit pas. Pourquoi doit-il repartir? Il ne le précise pas. Je le conduis à la gare en taxi et nous causons. Je lui demande s'il a bien compris combien sa mort fut pour nous une chose terrible. Il dit qu'il a très bien compris, mais que cela n'a plus d'importance, puisqu'il n'est pas mort. Nous arrivons à la gare en même temps que le train. Il monte dans un wagon et me fait un signe. Le train repart. Je ne sais pas où il va. Je suis troublé par ce double mystère. D'abord, sa disparition. Ensuite, sa destination future. C'est un rêve très doux, pas du tout angoissant. Pourtant, tu pleures? Mon père se tait. Il est gêné d'apparaître comme cela devant moi,
dont le ventre se contracte et le cœur manque d'exploser. Pourquoi sommes-nous si embarrassés par nos émotions, si stupidement pudiques? J'aimerais, aujourd'hui qu'il a disparu depuis plusieurs années, revenir en arrière et me taire également, le prendre dans mes bras et lui murmurer combien je l'aime. Pourquoi faut-il que la mort sépare les êtres pour qu'ils mesurent l'amour qu'ils se portent? Pourquoi est-il si laborieux de se dire « je t'aime » ? Après avoir sorti son mouchoir de tissu et vite effacé ses larmes, reprenant son assurance, mon père poursuit. J'ai fait plusieurs fois ce genre de rêve. Des rêves où Thomas n'est pas mort, où c'est seulement une farce. Mon père emploie souvent le mot « farce » pour désigner une absurdité de l'existence ou la bêtise d'un propos. Je reste silencieux, préférant ne pas interrompre ce moment précieux de confidence. Mes rêves s'enchaînent les uns aux autres, et je m'en souviens comme s'ils étaient la réalité. Dans un autre rêve, je me demande comment expliquer aux gens que Thomas n'a fait qu'un long et mystérieux voyage et qu'il n'est pas mort. Tu sais, comme je suis peu démonstratif, combien j'éprouve une certaine réserve à l'égard des gestes et des signes extérieurs du ressenti. Pourtant, je serre longuement Thomas dans mes bras. Dans ce rêve, tu rêves vraiment souvent de lui? Oui, et toujours il repart. Personne ne sait où. Il a dans ses rêves une vie parallèle, et il n'est pas obligé de fournir des explications. Dans l'instant du rêve, il est là et il est vivant. Est-ce que ses songes sont décryptables? Qu'est-ce qu'il représente, Stéphane? Cette question est posée depuis 2000 ans et je n'ai aucune compétence en la matière pour y répondre. Le rêve est-il élaboré de toutes pièces par le jeu des interconnexions du cerveau? Est-il fabriqué par le corps et uniquement par le corps? Ou le cerveau n'est-il lui-même qu'un appareil indispensable au décodage de... quoi? De ces je ne sais quoi qui circulent. Les dialogues que j'ai avec Thomas sortent-ils de la masse de souvenirs emmagasinés dans mon crâne, qui se combinent les uns aux autres pour échafauder des architectures bizarres au moment où le sommeil remplace les constructions logiques par des constructions inconscientes, inscrites dans une autre logique, mais qui ont ceci de commun avec les premières, qu'elles sont issues du même stock, un stock situé uniquement dans la masse matérielle de mon corps? Ou bien l'appareil qui fonctionne dans ma tête au moment du sommeil, n'est-il absolument pas le fabricant du rêve? Est-il, pendant le sommeil, un décodeur légèrement différent de celui qui fonctionne à l'état de veille et qui permet de percevoir ce que l'autre n'arrive pas à saisir? En d'autres termes, Thomas est-il dans ma tête ou est-il ailleurs?
Qu'en penses-tu?
Je n'ai pas de réponse.
Mais que ressens-tu après ces rêves?
Oh, ils sont très réels. Mais ce sont des rêves, et je me réveille.
Jamais mon père n'est parvenu à lever ses questionnements sur la nature de ses rencontres avec Thomas. Voyait-il une émanation de son fils, ou se débattait-il simplement chaque nuit avec sa douleur?
Thomas venait-il le voir à ce seul moment de la journée où il devenait accessible à autre chose? Ou était-ce juste le fruit de ses propres constructions mentales?
Sa raison a suspendu la possibilité de l'accepter. Il ne parvenait pas à se faire une opinion. Rien dans son cheminement n'a pu lui offrir un éclairage novateur quant à la nature de ses parenthèses nocturnes. Il vivait cette expérience dans une sorte d'entre-deux, se réveillant au matin avec la tristesse infinie d'avoir goûté au bonheur de la présence de son fils, pour découvrir, en ouvrant les yeux, en retombant dans la lourdeur du monde, qu'en réalité, il était mort depuis longtemps, et que cette joie n'avait été qu'un rêve. Qu'un rêve. Mais si les rêves nous emportent bien dans d'autres mondes, théâtre de retrouvailles temporaires, et ne sont pas la conséquence de productions neuronales aléatoires. En définitive, quelle différence cela fait-il au réveil? On se retrouve seul, dans ce monde froid.
La mélancolie du réveil poussait mon père à chercher des réponses, comme tous ceux qui ont perdu un être cher.
Mais qu'il est difficile d'explorer une telle question.
Où chercher? Dans la religion? La philosophie? La science?
En somme, là où notre éducation nous a appris à regarder.
Toute sa vie durant, mon père s'est cultivé.
Les réponses viennent de l'accumulation de savoirs et des connaissances intellectuelles, lui avait-on inculqué, comme à moi d'ailleurs.
La lumière se trouve dans les livres des philosophes, des grands écrivains. Alors lisons, lisons, lisons encore, sans relâche, jusqu'à ce que la paix arrive et que le chagrin disparaisse.
Mais ce moment se dérobe sans cesse.
Quelques semaines avant son décès, je rends visite à mon père.
Je le trouve dans son atelier baigné d'un froid soleil de printemps. La forêt s'éveille, les oiseaux s'affairent avec enthousiasme et sillonnent le ciel plein de projets. Le vent agite la cime des pins.
Il règne dans la pièce une chaleur étouffante,
chauffage poussé à fond.
Le corps frêle de mon père est fragile. Occupé à écrire, il redresse la tête et me sourit.
Les tableaux sont entreposés dans chaque recoin de l'atelier.
Tout autour de lui, devant ses yeux, ces paysages de l'esprit, fruits d'une vie de peintre. Les étagères sont garnies de milliers de pages de centaines de livres.
Sur sa table, entre les petits papiers annotés de sa plume épaisse, les pinceaux et les objets qu'il prend plaisir à toucher, un volume de la Pléiade, Platon, œuvre complète, volume 1.
Nous bavardons, économes de nos mots.
Que dire? De quoi parler quand le monde change si brusquement, quand la vie semble si proche de son terme?
La date exacte reste inconnue, mais la perspective se dessine, irréelle.
On ose y croire, encore moins l'évoquer.
Pourtant, j'essaie. Dans quel état d'esprit es-tu, papa?
Regard, mot dubitatif. Que peut-il répondre?
Alors, il attrape l'exemplaire à la couverture de cuir verte, l'ouvre à une page indiquée par l'une de ses nombreuses notes et lit. De la mort, nul n'a de savoir, pas même si ce n'est pas précisément pour l'homme le plus grand des biens.
Mais on la craint, comme si l'on savait parfaitement qu'il n'y a pas de plus grand mal.
Ce passage de l'Apologie de Socrate présente le déroulé du procès à l'issue duquel Socrate va être condamné à mort. Mon père passe quelques lignes, puis entreprend de me lire un autre paragraphe du long monologue du philosophe dans lequel il argumente en expliquant que, vis-à-vis de la mort, sa supériorité à lui est de ne pas savoir ce qu'il advient après.
Aussi, affirme-t-il, il ne laissera jamais s'imposer en lui la crainte de ce moment, ignorant si ce qu'il attend est bon ou mauvais. Telle est la sagesse, conclut mon père en refermant l'ouvrage.
À moitié convaincu. L'as-tu atteinte, cette sagesse? Es-tu sans crainte?
Pas trop, non. Je n'ai pas cette sagesse. En réalité, rien dans ce que dit Socrate n'apporte la moindre lueur sur la muraille immense de ténèbres qui se dresse devant moi et qui s'est dressée devant Thomas.
L'âme se sépare du corps, dit le philosophe. Il précise même qu'elle s'en affranchit.
Le texte de Platon est remarquablement beau. Je suis profondément ému en le lisant. Mais il n'apporte rien en dehors de la lueur de sa beauté.
Ce n'est rien d'autre que de la rhétorique et un superbe enchaînement d'idées assemblées dans une composition qui rappelle la peinture. Et cela mis à part?
Cela mis à part, il n'y a rien.
Alors, pourquoi t'accroches-tu à ce livre?
Pour ce que Socrate dit quelques instants avant sa mort, quand Criton lui demande comment il faut l'ensevelir. Cela me remet brutalement face à Thomas.
Une grande tristesse enveloppe à nouveau mon père. Le livre dans les mains, faisant tourner les pages jusqu'à une autre marque, il poursuit.
« Peu importe comment l'ensevelir, » dit Socrate en riant, « car il sait que ce n'est pas lui que ses amis devront enterrer, mais juste une chose. »
Ah ! Voilà ! Il vient de trouver un autre passage qu'il cherchait.
« Après avoir bu le poison, je ne resterai plus auprès de vous, mais je partirai, m'en allant vers certaines félicités qui sont celles des bienheureux. »
Mon père referme l'ouvrage d'un geste sec, l'œil brillant.
« Je ne sais pas où est ce séjour des bienheureux, ni même s'il existe, mais je sais que Thomas n'est pas dans le cimetière. Il n'y a dans sa tombe que cette chose. C'est une chose horrible. Je suis toujours tourmenté par cela.
Va jusqu'au bout de ce que tu veux dire, papa. »
Parler du séjour des bienheureux, c'est exprimer un souhait. C'est espérer que ce séjour existe. Mais jamais, depuis l'origine du monde, personne, ni Socrate, ni Jésus, n'a jamais pu le prouver. Cet espoir n'est rien d'autre qu'une vague lueur portée dans les ténèbres du mystère de la mort pour tenter d'en percer l'obscurité. Et quant à la chose, c'est-à-dire le cadavre, cette chose qui n'est pas Socrate et qui n'est pas Thomas, il y a comme le pressentiment qu'elle pourrait bien être quand même Socrate ou Thomas. Quand je passe devant le cimetière, j'ai l'angoisse de me demander si Thomas n'est pas là quand même. Et tu vas me trouver drôle, mais j'espère qu'il n'a pas froid.
Et puis, à d'autres moments, je dis non, non, Thomas n'est pas dans ce cimetière. Le séjour des bienheureux me revient en tête et je sens qu'il y a comme diffuse dans le monde une loi d'amour informulée et cachée dans la brume que j'ai entrevue, un dieu d'amour.
C'est quand même mieux qu'une chose dans un cimetière. Éternel duel intérieur entre la certitude du cœur et le refus de la raison dont jamais personne ne nous a appris à nous affranchir.
Nous demeurons prisonniers de notre esprit, de notre tristesse, aveugles, aveugles devant les couleurs immenses du réel.
Désormais, les réponses, papa, tu les as. Toi qui explores maintenant le séjour des bienheureux.
Chapitre 11. Cette vision m'a fait sortir de la mort.
Brice s'est éteint subitement pendant son sommeil.
C'est sa mère, Mireille, qui a découvert son corps.
Son départ s'est fait sans violence, mais reste encore aujourd'hui inexpliqué. Il avait 26 ans et aucune des recherches effectuées durant l'autopsie n'a permis de connaître les causes de son décès. Lorsque je contacte Mireille, 15 ans ont passé.
Je n'ai pas réalisé que nous sommes le lundi de Pâques, un jour férié, et une fête religieuse qui plus est.
« Savez-vous quand Brice nous a quittés ?» me demande-t-elle, surprise par mon appel.
« Je ne connais pas la date exacte, je sais juste que cela remonte à 2003. »
Devant mon silence, elle me confie. « Il est mort le lundi de Pâques 2003. »
Je reste sans voix
et perçois sans mal l'émotion de Mireille. Voilà des mois que j'ai prévu de m'entretenir avec elle et je l'appelle précisément à la date anniversaire de la mort de son fils.
Elle y voit une synchronicité étonnante. Moi aussi, cela me trouble.
Ce jour d'avril, Mireille et son mari attendent leur fils pour le dîner.
Ne le voyant pas arriver à 19h, comme prévu, et sans nouvelles de sa part, ce qui ne lui ressemble pas, ils commencent à s'inquiéter.
Brice n'est jamais en retard, et quand bien même, il prévient.
Or, son portable et le fixe de l'appartement sonnent dans le vide.
Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je m'attendais à le trouver malade. C'était la première fois qu'il me laissait dans cette inquiétude. Il était attentif.
À quelle heure vous êtes-vous rendu chez lui ?
Vers 20 heures. Nous l'attendions pour le souper. Je me souviens, ce lundi a été si particulier. J'ai passé la journée à refaire un meuble et j'ai collé plein de papillons sur la porte.
J'y repense après coup, parce que depuis j'ai découvert la symbolique des papillons dans les dessins d'enfants en fin de vie.
Et puis, il y a eu ce silence.
C'était incroyable.
Ma mère et ma nièce étaient venues passer le week-end avec nous. Tout le monde était calme, personne ne parlait. Brice était déjà mort depuis la nuit précédente,
et nous l'ignorions. À quel moment avez-vous commencé à vous inquiéter ?
Quand l'heure à laquelle il devait arriver est passée, et que l'on n'avait aucune nouvelle. Nous habitions Pau, à la sortie de la ville, lui, dans le centre.
10 à 15 minutes en voiture.
On a fait le trajet en silence avec mon mari.
Je suis monté en tremblant de la tête aux pieds. J'avais une trouille bleue au ventre.
On avait les clés parce qu'il les perdait tout le temps.
Vous étiez seul lorsque vous avez ouvert la porte ?
Oui,